France Musique.
Le journal Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Sécurité maximale aujourd'hui à Genève. Il s'agit avant tout de garantir la meilleure des protections avant, pendant et après la rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les deux hommes ont rendez-vous dans une magnifique villa au bord du lac. La discussion pourrait durer 4 ou 5 heures d'après les responsables de l'administration américaine. C'est Joe Biden qui a voulu ce tête-à-tête avec l'espoir, Grégory Phillips, d'apaiser les tensions entre la Russie et les États-Unis.
L'invitation a été lancée par la Maison-Blanche mi-avril avec un mot-clé, la désescalade. Il faut dire qu'un mois plus tôt, à la question « Pensez-vous que Poutine est un tueur ?», Joe Biden répondait ceci sur ABC. Oui, je le pense. Le maître du Kremlin avait dès le lendemain ironisé avec cette expression enfantine, c'est le premier qui dit qui y est. Puis Russes et Américains ont continué à échanger sur la possibilité d'un sommet pour finalement retenir cette date du 16 juin à Genève. Ces derniers jours, auprès de ses alliés de l'OTAN, Biden a expliqué qu'il dirait ses quatre vérités à Poutine, notamment sur les cyberattaques en provenance de Moscou, sur le sort de l'opposant Navalny ou encore la situation en Ukraine et en Biélorussie avec des lignes rouges à ne pas franchir, mais en reconnaissant aussi des qualités à son homologue russe. Je l'ai déjà rencontré, il est brillant, il est dur. Comme on dit dans le sport, c'est un adversaire sérieux. Un adversaire auquel le président américain a donc accordé un sommet quasiment en tête-à-tête. Les deux dirigeants seront au moment le plus fort de la discussion, entourés seulement de leur ministre des Affaires étrangères. Pour Poutine, c'est une reconnaissance. Pour Biden, un moyen de tenter d'apaiser un peu les tensions.
Joe Biden, qui pendant sa tournée européenne suit évidemment de près ce qui se passe en Israël. Il vient d'ailleurs de nommer un nouvel ambassadeur pour ce pays. Il s'appelle Thomas Knights. Cet ancien banquier a défendu sous la présidence Obama les financements destinés aux Palestiniens. Plus que 4 jours avant le premier tour des élections départementales et régionales, et il y a fort à parier que le premier parti de France sera une fois de plus le parti des abstentionnistes. Les dernières projections de l'IFOP indiquent que 6 Français sur 10 n'ont pas l'intention de se déplacer dans un bureau de vote dimanche prochain. Le contexte actuel va jouer, évidemment, Rosalie Lafarge, mais il n'est pas le seul responsable de cette désaffection annoncée.
Il y aura des absents de circonstances dimanche entre la fête des pères, les possibilités de partir en week-end. La date retenue pour ces élections pourra expliquer en partie l'éventuelle faible participation, mais en partie seulement.
C'est un phénomène qui est maintenant ancien. On est sur un cycle de forte abstention depuis maintenant presque 30 ans, un peu plus de 30 ans même.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, Jean-Yves Dormagin est l'un des auteurs de « La démocratie de l'abstention » publié chez Gallimard.
On a une augmentation de l'abstention à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, qui elle reste le dernier scrutin mobilisateur. Alors on a scénarisé la politique française presque exclusivement autour de cette élection. Et donc on a fini par imposer l'idée que c'était la seule élection qui comptait.
Mais ce désamour des scrutins vient aussi d'une inadéquation entre l'offre politique et la demande.
C'est une sorte d'évidence qu'on a vu d'ailleurs par exemple lors de la dernière présidentielle américaine. On a battu des records de participation parce que quand les électeurs se trouvent en présence d'une offre qui leur parle, les électeurs se mobilisent plus. Aujourd'hui, si les électeurs votent peu, c'est parce qu'ils ne perçoivent pas d'enjeu très fort dans les élections et dans l'offre qu'il aurait proposée. Donc évidemment, c'est un facteur de démobilisation très fort.
C'est ce que vient appuyer le tout récent baromètre Via Voice pour Libération, selon lequel près de 7 Français sur 10 trouvent leurs intérêts et leurs idées mal représentés par la classe politique.
Une classe politique qui manque de courage pour Alain Coq. Cet homme qui souffrait d'une maladie incurable et douloureuse est allé mourir en Suisse, utilisant chez nos voisins la procédure du suicide assisté. Dans une lettre posthume adressée au chef de l'État et aux parlementaires, Alain Coq accuse les élus de ne pas vouloir mettre à l'ordre du jour un projet de loi sur la fin de vie dans la dignité. La fin de l'isolement pour Jean Castex, cas contact de son épouse. Le Premier ministre reprend à partir de ce matin le cours normal, comme l'on dit, de ses activités. Testé négatif au Covid-19, il pourra donc physiquement tout à l'heure participer à l'Élysée, au Conseil des ministres. Il représente aujourd'hui quasiment 50% des procédures devant les tribunaux administratifs. On parle ici du contentieux migratoire identifié par le Conseil d'État qui présentait hier son rapport annuel. C'est un domaine juridique particulièrement complexe après 20 années de réformes successives du droit des étrangers, d'où cette demande de simplification formulée par Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État, est au micro d'Anne Fauquemberg.
Aujourd'hui subsiste 12 à 13 régimes procéduraux selon la nature de la décision attaquée. Et nous avons fait des propositions pour simplifier ce contentieux et passer seulement à 3 régimes procéduraux, un régime d'extrême urgence, un régime d'urgence et un régime de droit commun, dans l'intérêt de tous, l'intérêt des étrangers et des associations qui la défendent, qui veulent un droit, et je le comprends, lisible, clair, l'intérêt des administrations, notamment des préfectures qui traitent ces demandes, et l'intérêt du juge qui doit aussi vouloir traiter ce contentieux dans la clarté, dans la simplicité.
Une première sortie dans l'espace aujourd'hui pour Thomas Pesquet. Pour la 3e fois de sa carrière, l'astronaute va se retrouver dans le vide sidéral avec un de ses collègues américains. Le Français va devoir réparer un panneau solaire de la Station Spatiale Internationale. Et puis sachez que la Chine confirme, elle, qu'elle enverra bien demain 3 hommes vers sa propre station spatiale baptisée Harmonie Céleste. Le module tourne autour de la Terre depuis le mois d'avril à 350 km d'altitude au-dessus de nos têtes. Du soleil sur la majeure partie du pays, des orages sur la façade atlantique. Les températures vont battre des records avec des pics de chaleur autour de 36-37 degrés et sans doute un beau 30 degrés dans de nombreuses villes de France, Jean-Baptiste Urbain.
Allez donc guetter le module dans le ciel et revenez demain dès 7h. Bonne journée Olivier Denray.
Bonne journée, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.